Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'évangile de Matthieu. Un jour, quelqu'un m'avait fait du tort et ça me faisait vraiment souffrir. Comme j'étais dans mon droit, j'ai demandé à Dieu de me rendre justice. Et c'est là que, tout en priant, ça fait clic. Je n'avais pas besoin de justice, surtout pas. J'avais besoin de grâce. Si Dieu me traitait selon mes torts et mes droits, je serais perdue. C'est par sa grâce uniquement que Dieu me justifie. C'est le sujet qui est au cœur de ce 22e chapitre de l'évangile de Matthieu, comme nous allons l'étudier aujourd'hui. Ce chapitre commence avec une parabole de Jésus. Je lis les versets 2 à 14. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Dans cette parabole, Jésus parle bien de justification. Il la compare avec des habits de noces. Mais commençons par le début. Le roi, c'est Dieu. Les noces représentent le royaume des cieux. Je pense que ça, on l'a tous compris. Mais qui étaient donc ces premiers conviés qui n'ont pas accepté l'invitation du roi? Comme Jésus s'adresse aux pharisiens, cela ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'eux. Ces membres de l'Église, de l'élite religieuse, je m'excuse, détenaient la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi, les psaumes et les prophètes. Ils étaient donc le plus à même de reconnaître et de proclamer la messianité de Jésus. Mais ils voulaient d'abord maintenir leurs privilèges et non pas se soumettre à la parole. Ils ont donc non seulement rejeté le salut, mais ils ont également tout fait pour empêcher le peuple d'y accéder. Jésus dit, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic. Remarquons le petit mot « son », à son champ, à son trafic. Leur propre personne leur importait le plus. C'est pourquoi ils ont rejeté les prophètes et ils ont même tué Jean-Baptiste. Finalement, le roi va faire périr les meurtriers, brûler leur ville et élargir le cercle des invités. C'est exactement ce qui est arrivé. Et le peuple élu de Dieu rejeta le Christ et la bonne nouvelle du royaume s'étendit dans le monde entier. La parabole nous dit que la salle se remplit de tout plein de gens, de bons et de mauvais. Les pharisiens avaient toujours cru que ceux qui respectaient la loi au pied de la lettre étaient les justes. Ici, Jésus va nous démontrer pourquoi le dicton des gentils qui vont au ciel et des méchants qui vont en enfer est faux. Nos actes ne peuvent pas nous sauver, mais seulement Dieu, qui nous pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle si nous posons notre confiance en Christ, notre Seigneur. C'est la seule justification qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus la compare à un habit de noces. D'ailleurs, saviez-vous que les convives d'une noce royale recevaient leur habit de la cour du roi? Ainsi en est-il de notre justification. La Bible nous explique que ces habits sont blancs parce qu'ils ont été lavés dans le sang de l'agneau immolé pour nos péchés, c'est-à-dire que nous devenons purs si Jésus, qui paya pour nos péchés sur la croix, nous a lavés de toutes nos fautes, même les plus graves, nous a tout pardonné. Dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 7, versets 9 et 10, nous lisons cette vision céleste. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Fin de citation. Si nous essayons de nous justifier nous-mêmes, comme le faisaient les pharisiens qui se considéraient comme la crème de la crème religieuse de leur temps, nous ressemblons à cet invité qui avait essayé de participer au festin dans ses propres habits. En faisant cela, il avait fait preuve d'orgueil. Il préférait ses bonnes œuvres, son train de vie qu'il considérait être correct, à la justification que le roi lui offrait gratuitement. Il fut jeté dehors. Voici ce que Dieu fera avec chacun qui n'accepte pas son pardon parce qu'il considère ne pas en avoir besoin. Les scribes ont bien compris la parabole. Les pharisiens et les hérodiens, qui en temps normaux étaient comme chien et chat, firent alliance alors contre Jésus et décidèrent de lui tendre un piège afin de trouver un prétexte pour l'accuser de rébellion contre Rome. Ils envoyèrent une délégation pour lui poser la question suivante. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Le piège était vraiment perfide. Avec une réponse affirmative, Jésus aurait provoqué la colère du peuple, et en donnant une réponse négative, on aurait pu l'accuser d'être un fauteur de troubles. Les pharisiens considéraient que payer des impôts à l'empereur revenait à accepter celui-ci comme roi à la place de Dieu. Et voici la réaction de Jésus, je lis les versets 18 à 22. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Voilà. En parlant ainsi, Jésus leur disait qu'il existe deux règnes, celui de Dieu et celui de ce monde présent. Payer ses dues à l'État ne revient pas à rejeter le règne de Dieu. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Nous sommes responsables envers Dieu et nous sommes aussi responsables en tant que citoyens du pays dans lequel nous résidons. L'un n'exclut pas l'autre, mais au contraire le complète. Il est de notre devoir de chrétien de payer toutes les taxes qui nous sont imposées par l'État, d'exercer nos droits et nos devoirs civils le mieux possible et bien sûr de ne pas enfreindre la loi tant que celle-ci n'est pas contraire à la volonté de Dieu. Mais ça n'était pas fini. Maintenant, c'était les Sadducéens qui le prirent dans le collimateur. Leur question fut la suivante. Si une femme était mariée plusieurs fois, de qui serait-elle la femme dans le royaume des cieux? Et Jésus répondit. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prennent point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La réponse fut tellement pertinente que les Sadducéens se turent. Ce furent les pharisiens qui se rebiffèrent à nouveau et envoyèrent un docteur de la loi demander à Jésus quelle loi était la plus importante. Jésus répondit, je cite les versets 37 à 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En fait, la réponse de Jésus correspondait à ce qu'enseignaient les pharisiens. En citant ces commandements, le Christ s'était référé à Deutéronome 6, 4, qui commence avec la proclamation du Shema Israël. En français, écoute Israël, Shema Israël, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Ou en hébreu, je pense que quelques-uns de vous le connaissent aussi en hébreu, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Chaque juif croyant récite le Shema Israël matin et soir, ainsi qu'avant sa mort. Sur ce, les pharisiens se turent. Mais Jésus, à son tour, leur demanda « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Les scribes présents ne surent que répondre. Matthieu nous dit « Depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. » Cette phrase conclut la fin de ce chapitre. La semaine dernière, nous avions parlé de l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem. Nous avons compris qu'il venait en tant qu'agneau de Dieu qui serait immolé pour les péchés du monde et que cet agneau serait éprouvé et testé pour assurer son impeccabilité. Nous voyons maintenant que toutes les tentatives de lui trouver des défauts ont échoué. Ce sont les derniers jours de Jésus avant sa mort sur la croix. Shema Israël, écoute Israël. Nous aussi, nous voulons, nous devons écouter. Le Christ a souffert tout cela pour nous. Je vous invite à lire le prochain chapitre de Matthieu, le chapitre 23 que nous allons étudier dans une semaine. Ici, je vous dis au revoir et que le Seigneur vous bénisse.